Focus.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, plongeons dans le monde de la recherche scientifique. On va parler d'une avancée majeure. Après plusieurs années de travail, des scientifiques français ont récemment publié leur étude. Ils ont découvert qu'une protéine modifiée de type pseudoprion permet de protéger le cerveau des souris de la maladie d'Alzheimer. Une découverte soutenue par France Alzheimer et maladies apparentées. Alors, quelle est donc cette fameuse protéine? En quoi est-elle efficace pour lutter contre la maladie? Et quel espoir pour les humains? Alain Buisson, professeur à l'Université de Grenoble-Alpes, et Marc Denain, directeur de recherche au CNRS, sont avec nous. Leurs équipes ont travaillé main dans la main pour cette découverte incroyable et ils vont tout nous expliquer. Alors, professeur Alain Buisson, je vais d'abord me tourner vers vous. Pour commencer et mieux comprendre, on va essayer d'abord de remettre un peu dans le contexte de votre découverte. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer la genèse? Le point de départ, ou tout du moins ce qui vous a mis la puce à l'oreille, si je puis dire, c'est la mise en évidence en 2012 d'une mutation génétique au sein de la population islandaise. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Oui, cette mutation est tout à fait atypique. C'était la première fois que l'on décrivait une mutation du peptide, alors de ce peptide qu'on retrouve suréxprimé, extrêmement présent dans le cerveau des patients Alzheimer, on a trouvé qu'une mutation avait des effets bénéfiques et empêchait les gens d'avoir Alzheimer. Donc c'était une découverte qui renforce l'idée que la maladie provient d'une production d'un peptide qui est naturellement produit par le cerveau, mais qui devient pathologique lorsqu'il est produit en externe. Et de cette population, on a identifié un peptide avec une simple petite mutation, donc c'est-à-dire qu'il y a un acide aminé qu'il forme qui est différent, et les gens qui étaient porteurs de cette mutation étaient protégés de la maladie. Donc, on a voulu comprendre le mécanisme de cet effet, et on a pu reproduire sur des modèles cellulaires la mutation en question et étudier ses effets bénéfiques. Et on s'est aperçu que on avait une production d'un peptide de petite taille, ce peptide qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. Ce peptide semblait avoir perdu ses caractéristiques de toxicité. Normalement, ce peptide, il a la capacité à abîmer les cellules, abîmer les synapses notamment, les lieux de connexion entre les neurones. Et la production de ce peptide n'avait aucun effet pathologique, même quand on forçait à le produire en quantité énorme. Donc à partir de là, on a cherché à comprendre par quel mécanisme, et c'est comme ça que l'histoire a commencé.
Par quel mécanisme il pouvait être protecteur et non toxique finalement, c'est ça?
Tout à fait. Donc comment la substitution maillon de ce peptide, et un seul maillon, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, comment un acide aminé différent, donc normalement ces peptides sont composés de 42 acides aminés, donc il suffit d'en substituer un à la bonne place, et ce peptide perd toute propriété toxique. Cette petite substitution rend ce peptide complètement inoffensif. On essaie de comprendre le pourquoi, mais on a vu que une des cibles principales, c'était que normalement ce peptide, il a une toxicité qui est assez subtile. Il perturbe les synapses, il perturbe leur fonctionnement jusqu'à les faire disparaître. Ici, avec ce peptide et en présence de ce peptide, nos neurones, nos modèles cellulaires ne présentaient pas ces altérations au niveau des synapses.
Une observation du coup très intéressante pour la suite. Et au même moment, donc Marc Denain, vous travaillez sur une autre hypothèse qui concerne le rôle des prions sur la maladie d'Alzheimer. On va essayer du coup de comprendre comment est-ce que vous avez travaillé ensemble. Mais déjà, c'est quoi un prion?
En fait, le concept de prion vient de maladies qui ne sont pas les maladies d'Alzheimer. Ce sont les maladies qu'on appelle Creutzfeldt-Jakob ou la maladie de la vache folle, qui est très connue. En fait, des prions, ce sont des protéines qui ont une forme qui est anormale. C'est une protéine particulière qu'on appelle la protéine prion. Alors, on a tous des prions qui ont une forme normale dans notre corps, mais elles peuvent changer de forme et avoir une forme qui devient anormale. Et quand elles ont cette forme anormale, elles deviennent toxiques et elles sont capables de tuer nos cellules, de tuer nos neurones, nos cellules du cerveau. Et en fait, ce qui est remarquable, c'est qu'une protéine qui a une forme anormale, elle est capable de communiquer sa forme anormale à des protéines normales qui sont à côté d'elle. Et donc, elle met en place une réaction en chaîne. On va multiplier comme ça ces protéines anormales à l'intérieur de notre cerveau et entraîner ensuite une toxicité qui va se propager dans le cerveau. Et en fait, maintenant, on connaît et on sait que les protéines qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer se comportent comme des prions. Donc on parle à ce moment-là de pseudo-prions.
Et alors pourquoi ce que testait le docteur Buisson rendait un travail commun intéressant? C'était quoi l'objectif de travailler ensemble?
Ce qu'avait montré le docteur Buisson, c'était que certaines protéines, donc avec ces fameuses mutations islandaises, étaient capables de protéger de la maladie d'Alzheimer. Et donc, en discutant au cours de nombreuses interactions qu'on avait eues avec le docteur Buisson, on s'était dit qu'il était absolument fascinant le fait que certaines protéines pouvaient protéger. Et on s'est dit peut-être que si elles ont un effet prion, on va pouvoir peut-être protéger de la maladie d'Alzheimer avec ces protéines qui semblaient être protectrices contre la maladie.
Leur faire prendre du coup une forme similaire et du coup protectrice. Et alors, vous êtes passé au test in vivo sur des souris. Vous avez fait des observations qui confirmaient cela, mais qui allaient encore plus loin. Racontez-nous.
Oui, donc avec le docteur Buisson, on a pu produire des protéines islandaises et on a pu les inoculer dans des modèles animaux de la maladie d'Alzheimer. Et nous, on s'attendait uniquement à avoir un effet sur l'amyloïde, parce qu'en fait, ce qu'on inoculait, c'était des protéines amyloïdes. Et en fait, on s'est rendu compte que l'effet protecteur était beaucoup plus important que ce qu'on avait attendu. On protégeait contre l'ensemble des lésions de la maladie d'Alzheimer. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, il y a deux lésions, la protéine amyloïde et la protéine tau. Et donc là, on a protégé aussi contre la protéine tau. Et puis, on a aussi protégé contre les pertes des synapses, qui sont un des marqueurs majeurs de la maladie d'Alzheimer. Donc, les synapses, ce sont les éléments qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. Et puis, ce qu'on a aussi montré, c'est qu'on protégeait contre les atteintes comportementales, contre les pertes de mémoire des animaux qui avaient une maladie de type Alzheimer. Et donc, on protégeait contre quasiment tous les symptômes de la maladie d'Alzheimer avec ces protéines particulières qui avaient été produites par le docteur Buisson. Ce qui est remarquable dans ce qu'on a pu découvrir de ce qui se produit chez les souris, c'est que il suffit d'une seule inoculation de cette protéine protectrice pour pouvoir avoir un effet qui va durer très longtemps, plusieurs mois. Donc à l'échelle de vie d'une souris, en fait, on se rend compte que la thérapie qu'on administre peut durer quasiment sur la moitié d'une vie de souris. Et en fait, pourquoi ça permet de protéger pendant aussi longtemps? C'est parce qu'on a ce fameux effet prion. Probablement que la protéine qu'on inocule entraîne une réaction en chaîne pour multiplier les protéines protectrices. Et donc, en fait, on arrive à avoir un effet de protection qui dure très très longtemps avec une seule inoculation. Et ça, c'est vraiment exceptionnel parce que quand on donne des thérapies contre la plupart des maladies, il faut redonner des thérapies de façon régulière, tous les jours, toutes les semaines. Mais là, une seule inoculation permet de protéger pendant très longtemps.
Exceptionnel, vous l'avez dit, et il n'y a pas trop d'autres mots pour cette découverte qui apporte beaucoup d'espoir. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Évidemment, on a envie d'avoir de l'espoir aussi sur le fait que ça puisse être transposé chez les humains ou que ça puisse ouvrir peut-être à de nouveaux champs de recherche. Quelles sont les prochaines étapes pour vous et pour cette découverte?
La suite, c'est de pouvoir utiliser cette protéine ou des formes dérivées de cette protéine pour pouvoir espérer avoir des applications chez les humains. Alors, la protéine telle qu'on l'a découverte n'est pas directement utilisable chez les humains, donc il va y avoir un certain nombre de développements qu'il va falloir mettre en place. Il y a plusieurs éléments à découvrir. Les premiers éléments, c'est de faire en sorte que ces protéines puissent être utilisées et rentrer dans le cerveau des patients humains. Il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Et puis, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des technologies pour permettre de faire en sorte que les administrations soient plus faciles que ce qu'on fait actuellement. Actuellement, ce sont des administrations qui sont faites dans le cerveau, ce qu'on peut bien sûr pas faire chez les humains. Et donc, on travaille dessus de façon acharnée avec Dr Buisson actuellement.
Monsieur Buisson, vous voulez ajouter quelque chose?
Les perspectives de développement d'un traitement, c'est vraiment quelque chose qui nous anime maintenant de manière très aiguë. On travaille sur cette possibilité. Donc, notre but est d'essayer de convertir les expériences que l'on a faites où on utilisait un peptide en médicament. Et c'est un but qui va devoir nous faire passer de nombreux obstacles pour arriver à des structures chimiques qui reproduisent l'effet de cette protéine, mais on y consacre tout notre temps à l'heure actuelle. Et l'importance de l'effet protecteur observé nous motive énormément à aller dans cette direction.
Bien, merci pour vos recherches, évidemment. Bravo déjà pour cette découverte qui nous apporte cette dose d'espoir. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous. pour remercier aussi l'association France Alzheimer qui a soutenu nos travaux, qui les a rendus possibles. Je crois qu'on peut le dire, tous les efforts qui sont faits par l'ensemble des membres. Et pour nous, ça a été crucial dans la réussite de ce travail.
Merci, c'est très important. Et c'est vrai que l'association soutient énormément la recherche, et notamment celle-ci. Donc on n'est pas peu fiers. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. Quant à vous, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
C'était Focus, le podcast qui s'intéresse aux initiatives, à la recherche et au quotidien autour de la maladie d'Alzheimer.